Je voulais faire un petit peu le point de trois événements, hein, pour adopter la terminologie de l'autorité de sûreté nucléaire, qui ont eu lieu là récemment dans le Sud-Est, et expliquer pourquoi on a l'impression qu'on frôle en permanence la catastrophe. On est dans le Sud-Est entouré par de nombreuses installations, des centrales nucléaires, deux centres du CEA, etc. Donc, je voudrais déjà revenir sur... Bon, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que on se souvient qu'en juillet 2008, il y avait eu une fuite de 74 kilos d'uranium qui s'était produite dans un atelier de stockage d'effluents sur le site de Tricastin. Le premier recours en justice par les associations avait conclu que 74 kilos d'uranium déversés dans une rivière ne constituaient pas une pollution. On était tous complètement indignés, c'est du coup là le cas de le dire, et fort heureusement, la cour de Nîmes a rejugé en appel cette affaire et a déclaré condamnée la sous-catrie Areva à des dommages et intérêts, considérant donc que 74 kg d'uranium déversé dans une rivière, c'était bien une pollution. Donc on peut quand même espérer, là c'est un tout petit espoir, que ça fasse jurisprudence par la suite. J'avais assisté au procès à Carpentras de cette affaire et j'avais été complètement affolée de la suite de dysfonctionnements abominables qui avaient entraîné cette pollution. Donc en fait c'est une cuve qui contenait des effluents radioactifs et qui avait débordé. L'alarme s'était mise en marche, mais les techniciens qui étaient présents avaient déclaré que l'alarme sonnait n'importe quand et pour n'importe quoi, donc n'avait pas tenu compte de cette alarme. Le muret qui devait être étanche n'était pas étanche. Les effluents radioactifs, donc avec de l'uranium, commencent à se déverser à même le sol pendant des heures. Jusqu'à ce que finalement quelqu'un se dise « non, il y a quelque chose qui ne va pas ». On commence à chercher les équipements de secours. C'est la nuit, hein, donc tout ça avec la lampe frontale. Les équipements de secours, les clés du local avec les équipements de secours, évidemment, étaient perdues. Finalement, les gens qui étaient là trouvent des pelles à neige avec lesquels ils commencent à décaper le sol, parce qu'ils savent bien qu'en fait, au bout du terrain, il y a un exutoire qui part directement, un exutoire d'eau pluviale, qui avait été caché par des sacs, mais eux, ils savent quand même qu'il y a ce truc. Donc, il faut absolument empêcher l'uranium de partir dans les eaux pluviales. Et donc, ils décapent le sol et mettent les 20 cm de sol, ça fait tristement penser au corps d'école de Fukushima d'ailleurs, dans des sacs. On s'est évidemment dit que c'était pour noyer le poisson, hein. C'est-à-dire que si on arrive à mettre ça et à cacher qu'il y a eu un accident, voilà. Sauf que malencontreusement, cet uranium fuit dans le réseau d'eau pluviale. Donc à peu près 8 ou 10 heures après, ils préviennent l'autorité de sûreté nucléaire, mais évidemment il est trop tard, les dégâts sont faits. Il faut un recours juridique pour que la soi-disant transparence prônée par tous les nucléocrates s'applique un tout petit peu. Autrement, on est dans le flou le plus complet. Le collectif anti-nucléaire des Bouches-du-Rhône, on a décidé en début d'année de faire un recours contre le ministère de l'Industrie pour faire annuler le décret de démantèlement de l'atelier de plutonium de Cadarache. Alors cet atelier de plutonium, ATPU, fabriquait du MOX, hein, donc un mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium, pendant des années. Et puis, quand même, on a découvert que cet atelier n'était pas aux normes parasismiques. Il faut savoir que Cadarache est situé sur la faille de la moyenne durance, la plus active en France. Finalement, la SN a dit « non, c'est quand même pas possible, on ne peut pas laisser ces stocks de plutonium sur une faille active, l'installation n'est pas aux normes ». Voilà, on déménage ça à Marcoule, donc dans l'usine Mellox, qui est aussi sur une faille sismique. Bon. Il y a une enquête publique,